bienvenue, vous écoutez Droit vers l'Europe, une série de podcasts proposés par le ministère de la Justice pour aider les professionnels du droit à appliquer la législation de l'Union européenne. En compagnie d'un expert, nous revenons sur une procédure en matière familiale, civile et commerciale. Il partage avec nous son expérience pour une meilleure application des règlements européens. L'épisode 4 porte sur les injonctions de pays européennes. Roy Spitz, vous êtes avocat au barreau de Nice et membre de la Commission des affaires européennes et internationales au Conseil national des barreaux. La procédure européenne d'injonction de payer permet de faciliter le recouvrement des créances transfrontières. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bonjour. L'injonction de payer européenne, ou IPE, est un mécanisme relativement peu connu des professionnels. Pourtant, il s'agit d'une création déjà relativement ancienne, puisqu'elle a été créée par le règlement européen du 12 décembre 2006 et est entrée en vigueur depuis le 12 décembre 2008. Nous pouvons donc utiliser l'injonction de payer européenne sans les craintes qui sont liées au texte que nous venons de découvrir. Ensuite, il faut préciser qu'il s'agit d'un mécanisme optionnel que les parties peuvent y recourir sans aucune obligation. D'ailleurs, lorsque le juge refuse d'accorder l'ordonnance sollicitée, les parties peuvent tout simplement saisir le tribunal en faisant abstraction de cette procédure commencée et abandonnée. En quelques mots, l'injonction de payer, qu'elle soit nationale ou européenne, est une demande non contradictoire présentée par une personne avec ou sans l'assistance d'un avocat à un juge qui l'examine sans entendre le défendeur ni même tenir d'audience. Quand le juge y fait droit, le demandeur procède à sa signification au défendeur. En revanche, si le juge refuse totalement ou partiellement la demande qui lui est présentée, le demandeur a le choix d'accepter la décision du juge ou de saisir le tribunal de manière classique. À partir du moment où le demandeur a procédé à la signification de l'ordonnance, le défendeur a le choix entre soit régulariser une opposition qui a pour effet de mettre à néant l'ordonnance et permet de faire trancher le différend dans le cadre d'un débat contradictoire, soit le défendeur ne fait rien et va donc accepter l'ordonnance qui deviendra alors exécutoire.
Quels sont les intérêts de l'injonction de payer européenne ?
Les intérêts de l'IPE sont premièrement d'avoir un outil uniforme dans tous les États membres, sauf le Danemark. Deuxièmement, d'obtenir un titre reconnu et exécutoire dans les États membres, là encore, sauf le Danemark. Et ensuite, de bénéficier de règles de compétences territoriales classiques en droit européen, sauf en matière de droit de la consommation, où le juge compétent restera celui du domicile du défendeur. Ainsi, dans de nombreux cas, le juge compétent pourra être celui du créancier, par exemple, dans le cas d'une clause contractuelle. Je le précise parce que ça n'est pas le cas en matière d'injonction de payer nationale, où le juge compétent est toujours celui du domicile du défendeur. Enfin, comme dans toutes les injonctions de payer, on note que le coût est généralement raisonnable, car il n'y a pas d'audience et qu'il y a un très faible taux de contestation des décisions rendues.
Concrètement, dans quel cas peut-on y avoir recours ?
En droit national, la procédure est applicable aux créances dont la cause est contractuelle ou résulte d'une obligation à caractère statutaire, ainsi qu'aux effets de commerce tels que les lettres de change et billets à ordre, ou les cessions de créances appelées DAI par exemple. Le juge territorialement compétent est celui du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs s'il y en a plusieurs. En revanche, pour l'IPE, ainsi que je l'ai déjà indiqué, le champ territorial concerne tous les États membres sauf le Danemark. S'agissant de litiges transfrontaliers, il faut qu'au moins une des parties ait son domicile, son siège ou sa résidence habituelle dans un État membre différent de celui de la juridiction saisie. Il est même possible dans certains cas d'utiliser l'IPE contre un défendeur domicilié en dehors de l'Union européenne ou pour un créancier qui n'est pas lui-même domicilié dans l'Union européenne. Mais là, nous aurions besoin de beaucoup plus de temps pour entrer dans les détails. Son champ d'application matériel concerne les litiges civils et commerciaux transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, par exemple civile ou commerciale. Le règlement ne définit pas spécifiquement la notion de litige civil ou commercial, mais procède à des exclusions, par exemple en matière fiscale, douanière ou administrative. En tout état de cause, la créance doit impérativement concerner des créances dont le montant est déterminé et qui sont devenues exigibles au moment du dépôt de la demande.
Quels sont vos conseils pour un professionnel du droit qui souhaiterait utiliser cette procédure ?
D'abord, je dirais de ne surtout pas avoir peur d'y avoir recours. Des explications complètes avec les textes et tous les formulaires nécessaires sont disponibles sur le site e-justice.europa.eu. Ce site est d'ailleurs très utile en matière européenne puisqu'on y retrouve énormément de renseignements, y compris en dehors de l'IPE. Les mécanismes qui peuvent apparaître compliqués pour des justiciables avec des formulaires parfois compliqués pour eux, sont au contraire parfaitement adaptés aux professionnels et font appel à des mécanismes très proches de ceux qu'ils connaissent en droit interne. La demande est portée, comme en droit interne, soit devant le juge des contentieux et de la protection, soit devant le tribunal judiciaire, soit enfin devant le tribunal de commerce. De plus, à la différence de l'injonction de payer nationale, un échange peut s'instaurer devant le juge qui permet même de modifier en cours d'examen du dossier les demandes. Les réponses attendues font l'objet, encore une fois, de formulaires spécifiques permettant de compléter ou modifier la demande s'il y a lieu. Ensuite, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur dans tout le process. Par exemple, il n'y a pas de pièce justificative à produire sauf opposition. Il faut donc décrire les pièces invoquées, à savoir expliquer pour le juge leur contenu. Mais en contrepartie, il faut éviter à tout prix une interprétation ambiguë ou discutable d'une pièce, car cela engendrera un risque beaucoup plus élevé de recours du débiteur et un risque de réaction hostile de la juridiction qui aura en fin de compte à examiner l'opposition. Enfin, pour les défendeurs, il convient de faire attention au délai, car en l'occurrence, le délai d'opposition est exprimé en jours, à savoir 30, et non pas en mois, ce qui peut être un piège pour ceux qui sont habitués à calculer des délais d'opposition en mois.
Roy Spitz, je vous remercie.
Je vous remercie également.
Les podcasts Droit vers l'Europe du ministère de la Justice sont cofinancés par la Commission européenne. Retrouvez tous les épisodes sur justice.gouv.fr et sur les plateformes d'écoute.